90.3.
Il est 18h.
L'alibi de la libido, votre rendez-vous sexothérapie animé par Marina pour désacraliser la sexualité et l'envisager avec humour. Tous les 15 jours, le mercredi de 18 à 19h sur Kotsu FM 90.3.
Bonsoir à tous, bienvenue sur les ondes de Côte Sud FM et en cette belle soirée, nous avons les journées qui se rallongent, nous commençons à goûter à ce printemps. Il fait encore un peu frais mais j'ai une petite blague tout de suite d'entrée, en avril, découvre-toi d'un string.
Ah, je la connaissais pas celle-là.
Ouais, c'est un des futurs dictons, hein, mes petits dictons d'Instagram. Il va être posté d'ici peu, mais les coups de rebond de « il fait chaud, il fait froid ». Nous passons évidemment dans cette magnifique région que nous vivons, souvent les quatre saisons, parfois dans la même journée. Donc faites attention à vous, ne prenez pas froid.
Eh bien, on va essayer. Mais on va se réchauffer avec la libido.
Exactement, c'est un peu la thématique de l'émission. Alors, une émission sur laquelle on aborde évidemment le relationnel, la communication dans le couple, la sexualité, la sensualité. Nous aborderons, je pense, aussi la séduction. Nous y viendrons au bon moment. Mais aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'amour. D'amour parce que, en ce temps d'arrivée des Jeux Olympiques, j'avais envie de vous parler d'un décathlon de l'amour. Nous allons faire une émission un peu sportive parce que je vais essayer de vous aborder ce soir les 10 degrés de l'amour possible selon les Grecs. Et effectivement, ils avaient une vision plus large que nous de l'amour et on va se pencher ce soir sur le sujet. Aborder et essayer de comprendre comment elles peuvent s'activer en fonction des rencontres que nous faisons dans nos vies. Et les Grecs, eux, ont cherché déjà à l'époque, et je vous parle de l'Antiquité, à comprendre et surtout à pouvoir expliquer ce que pouvait être l'amour et comment les humains pouvaient le vivre, cet amour, voire l'incarner, ce sentiment parfois dont on n'arrive pas à comprendre pourquoi il nous met dans tels états, ou parfois on n'arrive pas à trouver les mots pour l'expliquer. Donc on va essayer d'aborder ce sujet-là. Alors, je parle évidemment d'un petit décathlon parce que je n'ai que une très courte heure pour vous parler de tout ça ce soir. Donc on va essayer d'être concis, précise. Des fois je suis un peu trop bavarde. Bernard, comme à son habitude, va nous poser des questions, on rebondira, on va faire ça de façon très spontanée. Et le cas échéant, je vous proposerai des dates où je vais effectivement proposer des conférences ou des apéros sexos sur les thématiques où j'aurai effectivement la possibilité de plus aller dans le détail de ces sujets-là. Donc en tout cas, au plaisir de vous retrouver ce soir. Toujours des playlists et des mises en musique et celles-ci désélectionnées par Bernard vont être vraiment sur la thématique amour. Hein.
Eh bien, espérons-le. Espérons-le.
Donc nous allons garder la flamme.
Nous allons l'entretenir.
Ah ouais, comme elle est en train de courir à travers le monde, ce soir elle est chez Côte Sud FM, elle est à Seignos. Et on va essayer de vous la donner pour que vos petits cœurs se réchauffent.
Et d'ailleurs même, on va essayer de garder une petite, comment on appelle pas, est-ce qui fait la flamme, une braise. On va en garder une de côté.
C'est ça la libide, la libido. Mon travail à moi, c'est de faire remettre un peu de bois sur les braises.
C'est ça.
Et donc du coup, je vais faire un petit peu comme les sportifs, hein. Je vais me donner un timing avec des objectifs, donc essayer de vous donner et vous déclamer les dix degrés de cet amour, et on va commencer tout de suite. En sachant que le premier il s'appelle porneia, alors évidemment je vous parle grec, mais je vais aussi vous expliquer l'origine de ces mots, et on va essayer de tenir un timing, en sachant qu'effectivement quand on parle de porneia, c'est le premier degré de l'amour chez les Grecs. Et si porneia devait être une personne, on pourrait dire « je vais te dévorer ». Cette personne sera en capacité de dire ces mots-là. C'est un mot qui est issu de la racine grecque qui vient finalement, la pornographie vient du mot porneia. Et du coup, c'est ce qu'on pourrait qualifier presque d'amour un peu dévorant. Un amour qui va effectivement désigner une personne qui a faim d'amour, faim de sexualité. Et donc porneia, chez les Grecs, c'est quelqu'un qui est transgressif. Mmh. C'est quelqu'un qui fait l'amour sans morale. qui va moins se limiter. Et il y a peut-être quelque chose d'empreint d'un amour sexuel, mais qui est toujours dans la joie, mais avec quand même une forme de dépassement. Hein. C'est-à-dire que du coup, j'ai envie de te croquer, j'ai envie de te bouffer. C'est, parfois, on a ces mots-là hein, qui peuvent venir. Et on va venir se saisir, par exemple, d'une verge pour faire une fellation. Et quelque part, on est dans la dévoration. C'est le plaisir de dévorer l'autre, de le croquer. Donc, il y a un peu de ça chez Porneia. Et effectivement... Il y a aussi quelque chose dans l'idée qu'on a un amour pour son propre corps, une forme d'auto-vénération. On a le plaisir d'être nu, on va ressentir par nos sens. Et effectivement, on a déjà une jouissance à être soi. Et du coup, comme ça, c'est bien ancré. On a une vraie capacité à aller vers l'autre et à vivre les choses pleinement. Et donc, du coup, l'idée de goûter à l'autre, dévorer l'autre, c'est assez intéressant dans cette idée de Porneia et de la définition qu'on peut en faire. Il y a aussi cette idée de Dionysos. Dionysos, c'est ce dieu grec de la fête. Mmh. Il est dans l'excès, Dionysos. Il a besoin de vin, il a besoin de nourriture, et c'est aussi le dieu de la sexualité. Hein. Il adore ça, Dionysos. Hein. C'est, il est partout, c'est Dionysos. Quoi. C'est, il en faut de partout. Et effectivement, cet amour-là se rencontre aussi avec les autres. Et elle ne veut pas forcément que du bien, Porneia. Porneia, elle est là aussi pour nous aider à dépasser certaines limites, à aller visiter une forme de part d'ombre que l'on a, aller voir ce qui se passe de l'autre côté du mur, aller visiter les zones un peu plus sombres et finalement des zones où il y a aussi de la lumière. C'est ça qui est intéressant. Et du coup, je définirais Porneia comme un amour pulsionnel, sans restriction. Quelque part, avec Porneia, tout est possible.
Une idée de gourmandise.
Il y a complètement une idée de gourmandise, il y a une idée de, je disais, de dévorer, mais il y a une idée de déguster aussi. Mm. Et ça va passer par ça. Donne-moi à te goûter, je t'offre à ce que tu me dégoûtes aussi. Et donc, du coup, effectivement...
Non, que tu me goûtes, pas que tu me dégoûtes.
Parce que... mais pas, non, donc on va se goûter respectivement.
Ouais.
Et donc, effectivement, il y a quelque chose qui est un amour-appétit. Si je devais résumer Porneia, il y a cette idée d'amour-appétit. Voilà pour le premier degré.
Donc sans modération.
Sans modération.
C'était joli ce petit...
Mais c'est mon timer. Je me suis dit 3 minutes par amour, on tient le timing de l'émission.
Ah mais il faut le laisser le timer, 10 secondes, ouais. Ça fait joli.
Il est doux, il glisse à l'oreille.
Celui-là. Ouais, celui-là, il est sympa.
Donc voilà pour un premier. Effectivement, donc, c'est des sujets qui sont extrêmement intéressants parce qu'on dit souvent « je t'aime » et ce « je t'aime », il est souvent limité. Limité à ce qu'on puisse être très, très dans difficulté d'arriver à exprimer ce mot-là. Mais à côté de ça, on aime le chocolat, on aime cette voiture, on aime ce projet de job, on aime ce dossier. Donc du coup, là, on va venir mettre beaucoup plus de subtilité dans la définition de ce que peut être l'amour.
Bien.
Donc, du coup, continuons si le sujet intéresse nos auditeurs, auditrices. Nous allons continuer avec le deuxième degré de l'amour qui s'appelle Pothos. Alors, Pothos, si c'était une personne, il dirait « Ah, tu es tout pour moi. En fait, j'ai besoin de toi. » Il y a quelque chose d'assez intéressant, c'est que l'idée dans cet amour-là, dans ce degré-là, c'est qu'on a besoin de l'autre. On a besoin de l'autre et du coup, la possessivité peut prendre forme quand on est dans l'amour Pothos. Pothos, c'est l'autre, il est à moi. Et je suis à l'autre aussi. Hein, il y a une forme de fusion. C'est-à-dire que du coup, j'ai besoin de toi autant que tu as besoin de moi. Et cette idée, c'est qu'il peut y avoir dans Pothos une forme de connotation de dépendance affective. Mmh. À laquelle parfois, justement, c'est aussi l'idée de ces émissions-là, c'est qu'on puisse savoir dans quel degré on est. Est-ce qu'il est sain pour nous? Et est-ce qu'il y a quelque chose qu'on a besoin d'aller travailler aussi personnellement pour essayer de comprendre pourquoi on en est là? Pourquoi on reproduit aussi des choses? Et il y a effectivement dans cette idée-là, il y a un besoin vital de cet amour, sinon on va mourir. Sinon on n'est rien. On n'est rien sans cet amour-là, on n'est rien sans l'autre. Et du coup, il y a besoin d'exister grâce à la présence de l'autre. Et ça, c'est quelque chose qui peut déjà mettre un lien, c'est-à-dire du coup, qui suis-je s'il n'est pas à côté de moi?
Oui.
Qui suis-je sans lui? Donc Pothos, il a un peu une double attitude. Il peut être autant dans une recherche de caresse, de proximité, mais en même temps, il faut qu'il montre aux autres la personne avec qui il est et qu'il aime, parce que du coup, ben, je n'existe parce que cette personne, elle est là.
D'accord.
Et c'est un amour qui explique qu'il y a un besoin derrière, un besoin qui nécessite d'être comblé. Et du coup, il y a une forme de béatitude chez Pothos d'être aimé par l'autre. Du coup, quand l'autre nous renvoie de l'amour, waouh, ça va mettre en béatitude. On va se sentir complètement exister. Et derrière, il y a peut-être, et c'est là où il faut faire ce type de recherche, un besoin de sécurisation. Et cette sécurisation, on va l'obtenir par l'amour.
Ça fait penser un petit peu à la littérature du 18e et du 19e siècle.
Ouais, alors, on a d'autres degrés d'amour où on va être dans l'amour romantique.
Oui,
il y a un peu de ça sur d'autres endroits. Là, il n'y a plus cette idée d'une attitude de dévotion, mais pas forcément pour soi. Ça va passer par l'autre. Donc voilà, du coup, il y a un amour qui enferme et qui crée parfois de la dépendance dans Pothos. Donc du coup, quand je parle de Pothos, je dirais amour-besoin.
D'accord.
Amour-besoin. Donc voilà pour le deuxième type d'amour. Alors je tiens quand même à préciser que tout le travail que je suis en train de vous, ce dont je vous parle ce soir, c'est grâce au travail d'Alain Eril, qui est effectivement ce sexothérapeute connu, psychanalyste, formateur, qui m'a formé en sexologie, qui a écrit de nombreux livres sur le sujet de la sexualité, que ce soit lié aux relations et du couple. Aimer, sur l'orgasme thérapeutique, sur le phénomène des femmes fontaines. C'est quelqu'un qui s'est vraiment, vraiment, vraiment très investi dans l'écriture pour que les gens trouvent des réponses. Et effectivement, il a fait un très long travail, déjà l'année dernière, avec une autre sexothérapeute que je connais bien, qui vit à Lyon, qui s'appelle Morgane Beauvais. Et Morgane fait depuis de nombreuses années des podcasts d'une excellente qualité, qui s'appelle Sin Eden Sublime, que nous mettrons en lien avec l'émission. Et ces podcasts, c'est plus de 10 heures d'écoute où elle explique à chaque fois, en plus d'une heure, un des degrés d'amour. Donc moi, je vous fais un résumé très très concis du travail qui avait été fait à l'époque par Morgane et Alain Eril. Donc voilà, on vous mettra tout ça en lien parce que ça a un vrai intérêt. Si vous avez envie d'en savoir plus, on en reparlera, mais il y a pas mal de choses intéressantes sur le sujet.
Et tu n'en as que plus de mérite d'arriver
à le synthétiser.
À le synthétiser de cette manière-là.
C'est peut-être l'idée de mettre en appétit.
Bien vu l'artiste.
Alors on va aborder un troisième degré de l'amour qui s'appelle mania paté. Alors on est toujours chez les Grecs, hein. Je rappelle, nous sommes dans un décathlon et nous rendons hommage aux Jeux Olympiques. Mania paté. Mania paté, si ça devait s'incarner dans une personne, ce serait tu es à moi, tu m'appartiens. Mania paté, elle pourrait se traduire par l'idée d'un amour passion, un amour addictif. Du coup, mania, c'est la même racine que maniaque. Et donc, du coup, il y a cette dimension d'une forme de folie parfois avec la maniaquerie. Ça peut aller trop vite, trop, trop loin. Il y a parfois de l'obsessionnalité qui pourrait venir. Et quand on parle de pâté, mania, pâté, pâté, ça vient effectivement du mot pato. Et pato, c'est la pathologie, c'est la souffrance en fait, hein. Quand on parle du mot pathologie, effectivement, on comprend qu'il y a quelque chose qui est en souffrance derrière. Donc du coup, effectivement, mania pâté, il y a de la difficulté. Et la réunion du mot maniaque et finalement de la souffrance, il faut imaginer que c'est un amour fou et qui va faire souffrir.
Et oui, sans limite, fou et...
Ouais, il n'est pas dans le sens positif du terme, quoi. Ça va être dans un sens plus négatif du terme. Dans ce sens-là, qu'on ne va pas forcément ressortir grandi de cet amour-là. Hein. Il est passion, mais c'est un amour qui va détruire.
Comment on dit quand on aime souffrir? Ah zut, j'ai pas l'expression. Bon bref, peu importe, perdons pas de
temps. Ah oui, masochisme.
Voilà. Ouais.
Alors c'est un autre degré, parce que du coup, est-ce qu'on en a conscience qu'on a dans cet état-là? Le masochiste, il a envie, en tout cas dans certains degrés de la sexualité, qu'on aura l'occasion de faire des émissions dédiées, avec plaisir Bernard. Du coup, j'ai des idées, voilà, ça fuse. Mais on va rester dans l'amour. On va rester dans l'amour, mais du coup, voilà, il faut quand même imaginer que cet amour qui détruit, il est en lien avec la jalousie. Il est en lien avec la perversion relationnelle. Et du coup, les grands jaloux qui veulent absolument que les autres leur appartiennent, hein, qui vont finir par les considérer comme des objets et pas des êtres humains, des sujets. L'altérité, du coup, ben, parfois dans ces grands jaloux, il y a l'idée que l'autre, non mais tu es à moi en fait. Et c'est une passion qui devient dévorante, destructrice. Et il y a une intensité dans cet amour-là qui peut pousser à des fois... Alors, on parle de thanatos dans mon métier. Thanatos, c'est l'idée d'un élan négatif. C'est, voilà, c'est une espèce de pulsion de mort, quoi. Il y a un truc qui n'est pas cool, quoi. Hein. Et c'est là aussi, on peut avoir des coups. Il y a des couples voilà, qui vont vivre ces ébats ou leur relationnel sur le fait qu'à un moment donné, il va y avoir aussi de la violence physique. Ou en tout cas, ça peut être de la violence verbale. Hein. Je rappelle qu'on peut tout autant souffrir des mots que des coups. Donc, faut se mettre en alerte par rapport à ça. Et évidemment, j'ai des parcours de résilience pour accompagner les personnes qui sont en souffrance. Et n'hésitez pas à vous tourner vers des professionnels de santé, des personnes qui sont dans l'accompagnement. Quand vous êtes en détresse, allez chercher de la ressource. Ne restez pas seul face à ces difficultés-là.
Mais dans ce cas-là, je pense que les deux souffrent. Autant celui qui est jaloux.
Parce qu'il y a de l'amour.
Ouais,
parce qu'il y a de l'amour. C'est... Et évidemment, et du coup, il y a la souffrance. Du coup, le pâté, hein, mania pâté, amour-passion. Et du coup, le mot souffrance, il est la définition du mot pâté, pato. Ah, voilà. Donc, vous voyez, comme quoi les Grecs, là, je vous parle de quelque chose qui vient de l'Antiquité. On remonte à loin, et ils s'étaient déjà posé les bonnes questions. Les bonnes questions sur pourquoi on a le droit de définir l'amour autrement que simplement quelque chose de beau. Et d'où l'idée de cette émission ce soir spécifique qui donne à expliquer un petit peu qu'est-ce qui se cache derrière tout ça. Interlude musical sur l'amour parce que love is all. On va justement basculer sur Eros, notre quatrième degré de l'amour. Eros, c'est ce visage de l'amour, érotique. Hein. Si Eros était une personne, il dirait « je te désire, tu me fais jouir ». Eros, c'est un terme qui veut dire amour érotique en grec. Hein. C'est finalement l'amour grec le plus connu. Mais dans cette idée d'Eros, il y a du jeu, il y a du ludisme, c'est de l'érotisme. Et ce n'est pas pour rien qu'Eros, c'est le dieu de l'amour hein, dans la représentation des Grecs. Et du coup, dans ce jeu, dans ce ludisme, il y a cet érotisme, il y a un lien vraiment de plaisir d'Eros. Et il va y avoir le plaisir d'un renouvellement, c'est-à-dire que là, on est bien, mais on va le revivre à nouveau. Eros, il y a cette idée de partage. Il y a cette idée qu'il n'y a finalement pas d'obligation forcément à la sexualité. Il y a juste l'idée qu'il va y avoir un mouvement. On n'est pas forcément dans Eros à la recherche d'un orgasme, par exemple. Mm-hmm. On va être, on n'en a pas besoin de cet orgasme-là. C'est tout le plaisir qu'il y a qui suffit à cette joie, à cet érotisme. Et quelque part, on n'a pas envie qu'il s'arrête, parce que l'orgasme, c'est ce qu'on appelle dans mon métier la petite mort. Ça met fin au plaisir. Et donc, du coup, ben, Eros, il aime bien y rester. Donc, on n'est pas à la recherche de l'orgasme, on est à la recherche d'un mouvement. Il y a une forme de... Eros, c'est le désir aussi, c'est le désir sexuel. C'est-à-dire que du coup, c'est beau quand on a ce désir-là. Et comme on a besoin de mouvement dans notre vie, on a besoin d'Eros pour vivre, en fait, pour se sentir vivant. Donc, il faut vraiment imaginer Eros comme du mouvement. C'est la vie dans toute sa splendeur et comment on peut prendre plaisir dans tout, dans la vie. Mm-hmm. Et peut-être de le regarder avec un peu d'Eros, un peu d'érotisme, avec un peu de sensualité, ben, les choses apparaissent beaucoup plus douces. Et du coup, c'est comment Eros, il nous dit, écoute, je suis là. Je suis avec toi pleinement, mais je vais revenir en plus. On ne va pas s'arrêter là, on se reverra. Cette notion de plaisir, elle va être partagée. Et elle est dans l'idée que ce désir va être là à nouveau. On va se désirer à nouveau. Donc vraiment, Eros, il faut l'associer au fait de désirer, le désir et cette idée d'amour érotique.
Un compagnon de route.
Complètement, et c'est là où c'est tout l'intérêt des relations qui durent un peu, c'est-à-dire qu'on le connaît dans une relation, on apprend à se connaître, on apprend à savoir ce qui est bon pour l'autre, bon pour soi. L'idée de la communication, de la sexualité, hein, je rappelle toujours, la sexualité ça s'apprend, et effectivement ça se partage, hein, c'est expérimentiel. On peut faire toutes les théories du monde, la sexualité, il va falloir la vivre. Voilà. Et du coup, effectivement, il y a cette idée de... plus on va se connaître, mieux on va faire l'amour, mieux on va être quelque chose qui est beau. Mais il y a d'autres degrés d'amour que nous allons voir. Parfois, on bascule dans un autre amour. Quand ce désir disparaît, il y a peut-être autre chose qui naît. Donc Eros, voilà, c'est l'amour érotique parmi les plus connus. Et c'était ce quatrième visage de l'amour sur ce décathlon. Décathlon.
Qu'est-ce que j'allais dire? Décalcomanie, j'allais dire n'importe quoi. Ce décathlon qui continue. Allez, on y va, on continue.
Alors du coup, on va aborder une autre facette de l'amour selon les Grecs qui est philia. Ah. Philia, ce serait une personne qui te dirait « je t'offre l'abondance et l'amour inconditionnel ». Philia se traduit par « aimer ». C'est l'amitié. Ça peut être l'amour d'un parent pour ses enfants. C'est tout le respect qu'un thérapeute a pour ses clients, par exemple. Mmh. Il y a quelque chose de l'ordre de la bienveillance. Moi, je vais être heureux parce que tu es heureux. Il y a quelque chose de la compassion, de l'empathie. Et du coup, chez Philia, ça se traduit par de la tendresse, du coup. Cette idée d'aimer, il va y avoir un amour désintéressé. Il va y avoir une idée de besoin de bonheur de l'autre, le fait que l'autre soit heureux. Du coup, il y a l'idée d'autoriser l'autre à être lui-même aussi, dans Philia. Philia, il y a quelque chose de très beau dans cet amour-là. C'est du coup, on va se réjouir du bonheur de l'autre. Et du coup, quand j'étudiais tous ces podcasts et tout, et dans les écritures de ce travail-là, c'est pas mal de temps de retranscription, de certitude, j'ai été chercher d'autres choses. Et je dirais même que pour moi, dans Philia, il y a la compersion, en fait. Et la compersion, c'est un mot que j'utilise beaucoup en cabinet parce que les gens ne le connaissent pas. Mmh. On a évoqué tout à l'heure... évidemment, maniapaté et ce côté finalement jalousie hein, qui pourrait ressortir. Ben là, on est à l'opposé. La compersion, c'est le mot qui est opposé de la jalousie. On va se D'accord. réjouir. du bonheur de l'autre. Et ça nous suffira, en fait.
Ah, je ne connaissais pas non plus ce mot-là.
Eh bien, on est là pour apprendre.
Bah oui.
Et effectivement, cet amour-là, il est désintéressé complètement. On se réjouit du bonheur de l'autre. Et du coup, c'est un amour qui pourrait se traduire, Philia, par un amour amical. Un amour abondant, un amour sans but. Il est juste posé, il est là. Et du coup, t'es heureux. Bah, du coup, je le suis aussi. Donc, c'est vraiment une forme, là. On est à peu près au milieu de ce que l'on peut voir de ces 10 amours grecs. Et Philia, il y a quelque chose d'une forme de beauté, je dirais. Et je tends à ce que les gens découvrent ce mot de la compersion, puisque c'est un mot qui est très connu chez les polyamoureux. Hein. Donc ça, on peut peut-être prendre 2 minutes sur ça, parce que certaines personnes viennent me voir en cabinet avec cette idée de « mais moi je peux pas », la culpabilité d'avoir un mari ou une femme ou une compagne depuis des années, et puis de se rendre compte qu'on a des sentiments amoureux qui vont naître pour un collègue, une consoeur, et que c'est compliqué à gérer. Mais en fait, dans cette idée de polyamour, il y a quand même des mots tout simples, c'est qu'on est déjà vecteur de plusieurs amours différents, et c'est pour ça que j'avais envie qu'on parle des amours grecs. On aime un enfant, mais on aime aussi un ami, comme on aime un grand-parent, comme nous aimons nos parents, comme on est très respectueux d'un prof pour lequel on peut porter une forme d'amour parce qu'il nous apprend des choses, un mentor. Et du coup, on est déjà polyamoureux, nous avons plusieurs façons d'aimer les gens autour de nous. Et du coup, ça peut paraître parfois complètement fou de dire « mais non, c'est pas possible, on peut pas aimer plusieurs personnes en même temps ». Ben si, on le vit déjà tous dans notre chair. Là où le polyamour gêne, c'est que le fait qu'on puisse avoir plusieurs amoureux, mais ou plusieurs amoureuses, et on n'est pas du tout dans la polygamie, c'est pas du tout l'histoire de ça. Le polyamour, c'est que si je m'autorise à avoir plusieurs amoureux ou amoureuses, ça veut dire que je te donne à toi aussi la possibilité de vivre la même chose que moi. Et c'est là où on est dans la compersion. Donc le polyamour, c'est quand même, rentrer dans le polyamour, c'est quand même prendre conscience que la jalousie va nous piquer. Parce qu'à un moment, on n'est plus l'unique, on n'est plus l'être seul. Donc quand on est dans certains degrés d'amour, comme nous avons vu en amont, en parlant par exemple de pathos, ben, je n'existe que parce que tu es là. Donc si l'autre commence à dire « j'ai besoin d'aller voir ailleurs » ou « j'ai besoin d'autre amour, je suis amoureux de quelqu'un d'autre », pour quelqu'un qui est dans pathos, ça va être juste inenvisageable. Mais quand on commence à rentrer dans des amours philia qui sont beaucoup plus doux, beaucoup plus respectueux de l'autre, mais je vais me réjouir que tu sois heureux en fait. Moi, ton bonheur m'importe et ça va me rendre heureux. Et du coup, ben, en plus, je sais que dans la compersion, tu vas aussi te réjouir si moi je pouvais vivre la même chose que toi.
Donc, c'est quelque chose que tu avais déjà évoqué d'ailleurs dans une émission précédente.
Ouais,
ça,
c'est vrai. Ouais,
à propos de tes consultations.
Exactement. Donc du coup, ben oui. Oui, oui, on a le droit d'aimer plusieurs personnes. Et on le vit tous déjà. Mais comment déconstruire le fait, on parlait hors antenne pendant la chanson, que la religion est très impactante. Il faut quand même qu'on comprenne tous que nous avons des enclumes sur les épaules liées à, en tout cas dans la société française, emprunt d'un christianisme qui a imposé le duo, le couple. Hein, c'était beaucoup plus libre avant tout ça. Voilà. Donc évidemment, la morale, hein, la fameuse morale, qui parfois prend beaucoup de place. Donc voilà, on est pas mal.
Et on est pas mal. Ouais. On est au... Alors, on a franchi combien d'étapes, là ?
5.
5. Donc, on arrive à la 6e ? Non, à la 5e.
Ouais. Non, on a fait.
Fait les 5. On arrive à la 6e.
La 6e. Alors, la 6e, on va continuer avec la douceur un peu de Philia, mais c'est un degré un tout petit peu différent. C'est Storgé. Storgé, si c'était une personne, elle serait pleine de douceur. Plein de tendresse, mais vraiment le degré de la tendresse ultime. C'est vraiment présent, il y a quelque chose dans le moment présent. C'est pas quelque chose de désinvolte, il y a vraiment une attention portée à l'autre. Il y a quelque chose, quand on va être dans Storgé, cette tendresse et cette douceur, ça va être d'un aller vers le corps de l'autre. On va rencontrer la peau de l'autre. Il y a l'idée du tantra que nous avons déjà abordé quelque part. Je réalise qu'il y a, il y a du storgé dans le tantra. Et encore, vous voyez comme quoi le tantra est aussi dans la culture évidemment non occidentale, très développée. Vous voyez, ben, finalement, déjà l'Antiquité, les Grecs se posaient la question. Il ben, y aurait des corrélations hyper intéressantes à faire entre l'Asie et les Grecs. Hein. Je, d'un coup, là,
mais
je
c'est deux berceaux de civilisation. Hein.
On est bien d'accord, ben, complètement. Complètement, et je pense qu'on a, on a un retour. Ce qu'on se disait, c'est que l'Antiquité, on avait quand même... ils avaient déjà bien décortiqué des choses. Hein, et comment on a pu les oublier, finalement. C'est assez intéressant. Donc, d'où l'idée de parler de ça. Mais il y a... voilà, donc je parlais de Storgé. On va pouvoir, par exemple, se plonger dans un regard complètement contemplatif de l'autre. On va l'observer et on va ressentir une immense tendresse. Et cet amour va, va venir nous remplir comme ça, juste par, en étant dans le toucher de l'autre et en le regardant, par exemple. Hein. Il va y avoir une connexion assez forte qui peut se passer dans ces cas-là.
On se nourrit.
On va se nourrir. Exactement, et c'est un couple qui du coup va marcher main dans la rue, qui va vouloir se masser sans être forcément dans la sexualité. C'est l'idée de se faire du bien, de prendre soin de toi, d'être vraiment dans cette douceur, tendresse dont je parlais. C'est le couple amoureux qui va le vivre de l'intérieur, mais du coup à l'extérieur aussi. Et c'est des couples qui vont dégager justement beaucoup de tendresse et de douceur. Et ils sont très apaisants quand on est en présence de gens comme ça. D'accord. Il y a quelque chose de très doux.
Et on en croise.
Qui se dégage, exactement. Et du coup, parfois, quand on reste pleinement dans cet orgé, comme on ne va pas forcément être dans la sexualité, parce que la sensualité va nous suffire, eh bien, ça peut parfois rester dans l'idée d'un amour plus platonique.
Mmh. Ah oui, oui,
complètement. Cet orgé, ça peut être ça. C'est-à-dire que du coup, notre relation, elle est tellement belle comme ça que... Et pourquoi pas, en fait ? C'est vrai que j'ai beaucoup de gens qui passent la porte du cabinet en s'inquiétant de ne plus avoir de désir sexuel. Ils me disent, mais tout va bien dans notre vie, mais on est le couple parfait, tout va bien, sauf ça. Sauf ça, et ben, peut-être que ça leur va bien, en fait. Mais ils ont une pression sociétale qui va effectivement les amener à l'idée que leur couple n'est pas réussi s'il n'y a pas de rapport sexuel. Mais déconstruisons tout ça, en fait. Pourquoi vous créeriez des obligations, hein ? C'est du sabotage, en fait. Il faut, je dois. Mais si un couple qui serait dans cet orgé ne ferait l'amour que 3 ou 4 fois par an, voire même tous les 6 mois, mais que c'est rare mais c'est extrêmement qualitatif, et que ça leur convient, mais tout va bien, en fait.
Oui, la belle vie est faite de ce qu'on en fait.
Complètement. Mais en fait, c'est là le propre de l'humain, de toujours vouloir ce qu'il ne veut pas et ne pas ressentir que le bonheur est déjà là.
Côte Sud FM 90.3, la radio Sud-Aquitaine.
Love me or leave me, let me be lonely. You won't believe me, but I love you only. I'd rather be lonely than happy with somebody else. You might find the night time the right time for kissing. Now time is my time for just reminiscing. Regretting instead of forgetting with somebody else. There'll be no one unless that someone is you. I intend to be independently blue. I want your love, don't wanna borrow. Have it today to give back tomorrow. Your love is my love, there's no love for no one else. Love me or leave me, let me be lonely. You won't believe me, but I love you only. I'd rather be lonely than happy with somebody else. Just reminiscing, regretting instead of forgetting with somebody else. There'll be no one unless that someone is you. I intend to be independently blue. I want your love, don't want to borrow. Have it today to give back tomorrow. Your love is my love, there's no love for no one else.
Thank you. independently. I want your love, don't want to borrow, have it today.
Alors, nous venions de voir l'amour tendresse et nous allons effectivement passer sur le septième degré de l'amour vu par les Grecs. Donc, effectivement, depuis tout à l'heure, pour les gens qui nous rejoignent en cours d'émission, n'hésitez pas à venir vous saisir du podcast, parce que ben voilà, la grande chance de Côte Sud FM, c'est qu'il y a une super équipe. Et puis il y a Blandine derrière qui gère aussi tout ça sur l'informatique. Hein. Il faut quand même imaginer qu'il y a de la technique derrière. Il faut savoir rendre hommage au fait que cette émission, elle marche, parce que ben, c'est des bénévoles dans cette radio qui existe depuis des décennies et qui est sur 90.3 et qui s'étend ben, sur les Landes et sur la Côte Basque et donc à vos oreilles. Donc si vous nous rejoignez en cours de route, vous avez peut-être loupé le début d'émission. Nous abordons ce soir les 10 degrés de l'amour grec. Les Grecs avaient effectivement défini l'amour avec beaucoup plus de variables, avec une vision beaucoup plus large. Et nous allons aborder le 7e degré. 7e degré qui effectivement s'appelle harmonia. Harmonia, c'est la vision de l'amour romantique.
Ah.
Nous en parlions. cette relation-là qui cherche justement l'équilibre, l'équité. Hein, c'est souvent on parle d'équilibre. L'équité et l'égalité. Donc il y a quand même vraiment une nuance entre l'équité et l'égalité. Et ça, je trouve ce mot est magnifique. Du coup, l'harmonia va être mise en œuvre par des gens qui se respectent, qui vont respecter les limites de l'autre, qui vont s'écouter. Effectivement, on a déjà souvent abordé ici des émissions de radio avec la maladie qui s'invite dans la sexualité. Mmh. Et parfois, du coup, on n'est plus en capacité d'écouter que l'autre a des limites, parce qu'on va ressentir de la frustration. Et que ça va être compliqué à gérer. Mais la frustration, je le répète, elle est vraiment propre à chacun. On n'a pas à la faire porter à l'autre, en fait. Et là, du coup, dans Harmonia, ben, y a pas de ça du tout. On se respecte, on s'écoute, on arrive à se parler, on s'accorde bien et il y a quelque chose d'être complémentaire.
Alors, on respecte l'autre, mais on se respecte aussi.
Soi.
Soi.
Respecter ses propres limites. Ouais, c'est-à-dire, mais il y a de ça, merci Bernard. C'est vrai que, et c'est ce qu'on travaille souvent en cabinet, c'est effectivement, on va être empreint de demander plein de choses à l'autre, mais souvent, entre ce que je dis et ce que je fais, il y a déjà un gap. Valeur d'exemple. Donc, effectivement, si je me respecte moi et que je suis en capacité de dire non, à l'autre gage aussi d'entendre que ça doit être un non. Dans la sexualité, d'un coup, il y a beaucoup d'enjeux et ça crée beaucoup de tensions. Mais il y a juste qu'il va falloir apprendre à communiquer l'état dans lequel on est et pourquoi on a atteint nos limites et que là, c'est juste pas possible. Et si l'autre arrivait à comprendre pourquoi, eh ben, du coup, peut-être qu'il accepte beaucoup mieux que c'est pas OK. Et voilà, tout est question d'échange. Hein. Mmh. Dans Harmonia, il y a complètement ça. Il y a l'idée que du coup, c'est complémentaire. Il y a quelque chose de l'ordre de c'est tellement harmonieux que du coup ça brille quoi. Il y a quelque chose de waouh, ça dégage quelque chose qui est absolument beau, mais c'est tranquille quand même. Il y a quelque chose qui est très bâti et c'est un peu assis harmonia. Donc parfois ça manque un peu de surprise, ça manque un peu d'humour. Hein, on sait à quel point l'humour c'est important pour moi. Et du coup, ben, harmonia, il y a peut-être un peu de ça. Du coup, chacun est à sa juste place. Et comme tout est en accord, tout est harmonieux, ben, wow, on a envie un peu, des fois bousculer un peu tout ça. Mais pour certains, ça va très très bien marcher. Et notamment sur les couples plus âgés. Qui ont du coup dépassé beaucoup d'épreuves ensemble, qui se connaissent et qui du coup arrivent à s'harmoniser parce qu'ils ont vécu des choses difficiles. Mmh. Et ils ont notamment vécu déjà plusieurs degrés de ces amours-là. Ils sont peut-être passés par l'amour fusion ou l'amour passion ou l'amour dévorant. Ils ont connu la jalousie, par exemple, de Mania Pathé. Et que finalement, ils se sont rendus compte que... Bah, quand c'est harmonieux, c'est quand même vachement plus agréable à vivre et qu'on perd beaucoup moins d'énergie. Donc il y a quelque chose aussi peut-être voilà, de ces couples plus âgés qui ont traversé les expériences de différents amours avec des partenaires peut-être différents ou pas. Ça peut être le même partenaire de 40 ans, mais on a eu des épreuves de vie ensemble. On a su les dépasser et maintenant on sait comment on s'harmonise parce qu'on connaît notre complémentarité. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est un amour harmonie.
Et l'harmonie ne veut pas dire monotonie, ne soyons clairs.
Complètement, je suis d'accord. Là, je parle vraiment d'idée d'un équilibre, d'une équité et d'une écoute, d'une écoute. Donc absolument pas dans la monotonie, justement. On va s'écouter sur les désirs des uns des autres et on va décider de vivre des choses ensemble ou pas. Il y a de ça aussi, mais c'est de, ce respect est là. Donc beaucoup d'intérêt effectivement dans Harmonia. Et pour garder le timing et qu'on tienne bien le rythme de l'émission, je vous propose de passer au suivant.
Allons-y.
Au suivant. Eunoia. Nous restons toujours sur des thématiques des amours grecs, donc je vous amène vers des mots un peu qui sortent de l'ordinaire, que vous n'avez probablement pas souvent entendu. Eunoia, si c'était une personne, elle dirait « j'aime prendre soin de toi ». Et cet amour, il est presque dans le dévouement. Je dirais même plus que le dévouement, et c'est qu'on pourrait être dans le sacrifice pour l'autre.
Ah.
Eunoia, on va se dévouer pour avoir toutes les conditions pour que l'autre soit bien, pour que l'autre soit heureux, et parfois à ses dépens. Mais on n'en a pas forcément conscience. On le fait vraiment parce que ça nous semble à ce moment-là juste. On est un soutien, mais on va en être jusqu'à « je m'oublie, car je prends soin de toi ». Il y a un amour sacrificiel dans Eunoia. Et il y a quelque chose de « quand l'autre va pas bien, moi je vais être là et je vais être tellement tournée vers l'autre que j'en perds mon ego ». Il n'y a pas d'ego dans Eunoia. Et on est tellement tourné vers l'autre qu'il peut même y avoir de la contemplation. Oh. Ben d'un coup, j'ai l'image des statues grecques avec voilà, une histoire de la contemplation.
Oui.
Et du coup, voilà, Eunoia, elle donne l'amour sans condition. Elle n'a pas besoin de retour de l'amour comme nous l'avons vu dans l'amour besoin. Elle donne. Elle donne. Et donc, il n'y a pas de réciprocité forcément.
C'est un voyage aller.
Pas forcément, mais en tout cas, il y a quand même quelque chose un peu de ça. Et laisser la place à l'autre dans l'ordre de cette dévotion et du don de soi ramène aussi un peu à un sujet qu'on a eu en début d'émission, de peut-être la dépendance affective aussi. Il y a parfois voilà, un glissement dans la dépendance affective avec Eunoia, parce que du coup, j'existe aussi parce que j'ai tellement d'amour pour toi, de ce Eunoia pour toi, il est tellement dans le dévouement que je m'en oublie, et du coup, ben, est-ce que j'existe si tu n'es plus là, quoi. Donc voilà, il y a quelque chose qui peut être intéressant à étudier sur ça. Donc il faut garder à l'idée, dans Eunoia, de ce sacrifice. Et du coup, dans la sexualité, un des choses qui peuvent nous dire qu'on est dans Eunoia sans le savoir, c'est que le plaisir de l'autre va passer avant le sien.
Oui, par définition.
Ouais. Et du coup, on va faire le contentement de son ou sa partenaire et on passera au second plan, voire on passera pas de plan du tout. Voilà. Donc du coup, voilà, il était quand même important aussi de parler de celui-là. Et j'ai un timing qui tient, mais Bernard, magique.
Magique. Trop forte.
Oh, on est pas mal. J'essaie d'équilibrer pour que je parle, en fait. Ouais, c'est un peu comme les politiques quand il faut à la radio que tout le monde se prend de parole. Je veux donner le même temps d'amour. Même si les amours, vous ne vous sentez peut-être pas concernés par d'autres, vous n'en avez pas vécu certains, vous qui écoutez l'émission sur Côte Sud FM. Ben voilà, je vais essayer d'être très respectueuse que tout le monde en ait autant.
L'ARCOM sera content.
J'essaye. Ça, c'est mon côté équité, j'en suis ancrée. Donc on va continuer ce petit décathlon et on approche de la fin de ces jeux de l'amour aujourd'hui sur les ondes de Côte Sud FM. On va parler de Caris. Caris, si Caris était une personne, elle dirait « je t'aime sans condition ni but ». Quelque part, c'est une grâce d'aimer et c'est vraiment la grâce que je ressens de t'aimer.
D'accord.
Il y a une dimension un peu spirituelle dans Caris. On parlait de religion, on parlait hors antenne d'univers et de connexion. Dans certains moments, l'orgasme nous fait partir un peu et nous connecter au tout. Il y a quelque chose de l'amour dans Caris. Il y a quelque chose qui est porté à son plus haut niveau. Il y a de la vénération. Pour certains, on pourrait même penser qu'on est proche des dieux, quoi, de Dieu. Il y a l'idée, je pense au... Oh assez amari, quoi, une espèce de...
Ah oui.
Y a un amour sans condition. Il y a un amour qui est plein de joie parce que du coup, on a envie de célébrer. On se sent vraiment dans un bain d'amour. On se sent du coup nourri. Mais du coup, il y a quelque chose qui n'est pas forcément sexualisé dans Caris. Il y a quelque chose plus de l'ordre de l'extase et de la grâce. Et donc, du coup, il y a de l'illumination. Ah, c'est bon, cet amour-là. Ah. On a l'impression qu'on est touché par quelque chose de beaucoup plus grand que nous.
Eh ben, c'est un lien avec le charismatisme.
Ben, du coup, c'est vrai que quelqu'un qui est charismatique, quand il rentre dans une pièce...
En pamoison.
Eh bien, exactement. C'est-à-dire que du coup, il génère de la lumière quand même. Mmh. Généralement, on va dire, il est solaire, il est lumineux. Mmh. C'est quelqu'un qui va du coup prendre sa place et sans que personne puisse remettre en cause que ce n'est pas la bonne place. Quoi. C'est-à-dire que du coup, il y a quelque chose de comme ça dans quelqu'un qui est charismatique. Et la définition que j'aime bien de Vincent Cespedes, qui est un philosophe français qui fait un gros travail sur les couples et qui a écrit plusieurs livres sur le sujet, qui est d'ailleurs effectivement polyamoureux dans sa vie, qui a une approche effectivement assez déconstruite de ce que peut être l'amour, le couple, la relation, avait effectivement dans un de ses livres, j'avais bien aimé ce paragraphe, décrit ce qu'était une personne puissante. Du coup, il prenait l'exemple d'une personne charismatique. Mais dans la personne charismatique, quand elle rentre... elle gêne personne, mais parce qu'aussi il y a quelque chose de, quand elle nous regarde, cette personne-là, elle nous fait penser qu'on est meilleur. Elle va voir en nous le meilleur de ce qui est en nous et elle nous le renvoie. Et finalement, elle ne nous renvoie pas sa lumière, c'est qu'elle nous fait exister la nôtre, en fait. Et c'est ça que je trouve beau, dans une vraie personne charismatique, là, vous voyez, je fais une petite différence, moi, par rapport à quelqu'un de puissant. Qui parfois a besoin de se sentir puissant en écrasant les autres. Hein. C'est, voilà. Le charismatique.
C'est plutôt un miroir, le charismatique.
Bah, ouais, du coup, mais positivement de tout ça. Et c'est la valeur d'exemple, du coup, qui est sympa à tirer de ça. Et pas de la jalousie, justement. et donc, effectivement, c'est intéressant parce que on va, du coup, dans Caris, s'aimer sans condition. Et peut-être parfois on est du coup dans l'érotisation, mais pas forcément dans la sexualité. On va du coup célébrer l'humain. Il y a quelque chose de cet amour plus universel du coup. Et c'est peut-être parfois par la sensualité que ça va s'exprimer. Il n'y a pas forcément besoin de sexualité dans Caris. Il y a quelque chose de quelque chose dans ces cas-là. S'il y a de la sexualité, elle sera vraiment totalement consentie. Parce qu'on aura envie de transcender cet amour-là. L'amour un peu au-dessus de tout. Et du coup, il y aura quelque chose de très tendre et aussi de très respectueux de l'autre chez Caris. Un peu comme nous avons vu dans un des autres degrés de l'amour. Voilà un petit peu pour ce degré-là.
Et du coup,
nous arrivons au dernier.
Aïe, 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 déjà.
Ouais, nous arrivons au dernier. On arrive sur le dernier de ce décathlon qui s'appelle Agapé. Agapé. Si ça devait être une personne, il dirait ce n'est pas seulement moi qui aime et toi qui aimes, c'est l'amour qui nous aime en nous. Mmh. Et du coup, là, on célèbre vraiment l'amour dans toutes ses dimensions. Dans toutes ses dimensions, c'est une forme d'amour qui a quelque part trouvé une forme d'immortalité. Les Grecs, ils disaient que c'était même la source de l'amour. C'est-à-dire que quand on arrive à être dans Agapé, on a gagné à l'immortalité.
Ah.
Et du coup, cette source-là, cette source de l'amour agapé, il y a quelque chose chez les Grecs de cette source de l'amour, il faudrait la boire du coup et répondre à étancher une soif. Et du coup, on goûterait à cette immortalité.
Sans connotation de l'immortalité qu'on connaît ou
exactement. C'est-à-dire voilà, que c'est tout ça, là. À l'époque, on était humain, on n'avait pas accès à Dieu. Hein. Les dieux étaient là-haut et il y avait le domaine des dieux.
Et le domaine des humains.
Donc effectivement, dans cette idée-là, les Grecs, on est sur un autre plan. Parce que là, dans Agapé, on avait sur certains degrés d'amour, la sexualité n'était pas présente. Là, elle est présente chez Agapé. Mais elle est présente dans un degré du sacré. On va célébrer le corps, on va vraiment être dans la joie de vivre cet instant-là. On va s'en délecter. C'est-à-dire qu'on a vu de la dévoration, mais là, on va se délecter. C'est vraiment dans beaucoup plus de subtilité. Il y a cette idée, vraiment, on avait utilisé le mot sur le premier, mais là, il y a l'idée de, au lieu de porneia qui va dévorer, on parlait de déguster, mais avec quand même... Là, on est dans, on va déguster, mais c'est de la délectation. On n'est pas à la recherche de presque la quantité que porneia aurait besoin. Là, on va être à la recherche de quelque chose d'une qualité extrême.
On n'est pas gourmand, on est gourmé.
Oh oui. Alors du coup, bah, j'ai l'image du buffet, quoi. Mmh. On serait sur un buffet à volonté chez porneia, le degré numéro un de l'amour. Quand du coup, chez Agapé, on serait chef étoilé, quoi. Mmh. Hein? Peu, mais waouh, quelle expérience sensorielle.
Ouais,
hein.
Mmh.
Et donc, du coup, il y a, on va déguster le corps de l'autre, on va y voir quelque chose comme du miel, de la douceur, on va... Il n'y a pas de pulsion, il y a l'idée que c'est raffiné.
Voilà,
voilà. Ce serait une dégustation raffinée. L'idée d'agapé, c'est quelque part qu'on a une part d'immortalité en nous, et c'est l'amour.
L'amour avec un A majuscule.
Avec un A majuscule, évidemment. Et c'est... Oh, mais quel timing. J'ai les 3 minutes aussi sur Agapé. C'est quel timing parfait. Donc voilà, on a fait un peu l'idée de ces marathons. Donc évidemment, j'ai dû être très concise. C'est dur, c'est des sujets qui méritent d'être encore plus explorés.
Oui, mais ça a été précis.
Oui, mais ça, j'aime bien ça, moi. C'est mon côté architecte qui ressort. La précision, je la garde. Alors moi, mais je vais étayer ça. J'ai 2 dates à proposer, effectivement, à nos auditeurs. Fin mai, le 30 mai, je vais faire un apéro sexo, donc de façon très ludique. On va jouer sur ces 10 degrés de l'amour grec avec une soirée à thématique apéro sexo sur Anglette. Donc pour les gens qui ont envie de descendre des Landes au Pays Basque ou pour les gens qui nous écoutent au Pays Basque, ce sera le 30 mai à partir de 19h à la Péroc. Et je vais proposer une conférence, j'aurai l'occasion d'en reparler sur les ondes, qui sera plutôt sur la période estivale, où là je vais pouvoir vraiment bien étayer tout ça et essayer de passer vraiment du temps pour mieux expliquer plus en profondeur ces différents degrés d'amour. Et là ce sera sur Biarritz, voilà. Donc date à venir pour l'été et parler de nouveau et approfondir ces sujets d'amour grec.
Et tant qu'on est dans les annonces, on pourrait parler d'un festival qui te tient à cœur depuis que tu en as entendu parler, le festival Focal.
Les Focales, mais oui, merci. Alors évidemment, moi, quand on parle d'amour, hein, j'ai quand même beaucoup déconstruit de choses depuis de nombreuses, nombreuses années. Et effectivement, on a de l'amour homme-homme, on a de l'amour femme-femme, on a de l'amour homme-femme, on est... C'est l'amour qu'on vénère. Et du coup, je suis effectivement très emprunt de la communauté LGBTQIA+. Donc pour les gens qui ne savent pas, LGBTQIA+, c'est le L de lesbien. on va tous les... Voilà.
Voilà.
Le G de gay, le B de bi, le T de personne trans. Et du coup, effectivement, les QIA+ sont venus, mais pour avoir une communauté beaucoup plus large, notamment intersexe. Et le plus, il y a aussi les personnes de couleur, en tout cas, qui englobent toutes les personnes qui sont en minorité. Et donc, merci à toutes ces associations qui portent un combat, une défense, une parole, une protection des gens qui sont là-dedans. Donc ça, vraiment, je tiens du coup à parler d'une association qui s'appelle Focal.net. Focal organise un festival itinérant, effectivement, et Côte Sud FM en parle, en reparle, et ça tient à cœur. Et donc ça va démarrer bientôt, dans une dizaine de jours, du 30 avril au 25 mai, donc quasiment durant un mois, à travers toutes les Landes. Donc pour citer les Landes, vous aurez Vieux-Boucau, Biscarrosse, La Bouillère, Mont-de-Marsan à Dax, à Pau pour le Béarn, mais vous avez aussi Saint-Vincent-de-Tyrosse. Et nous aurons une présence aussi à Bayonne, au Pays Basque. Et il y a des films vraiment notables qui sont absolument à connaître pour venir s'ouvrir, notamment Priscilla, Folle du désert, Un jour, une fille. Nous avons aussi Le Vente. Il y a des films d'une qualité exceptionnelle sans jamais nous connaître. Je vous recommande chaleureusement ce festival itinérant. Focal, focal.net pour toutes les informations. Je vous laisse le numéro de téléphone, le 07 85 30 64 15, focal.net. Les dates de 2024 sont donc du 30 avril au 25 mai. Ils vont forcément passer à côté de chez vous et ça va être une ouverture du champ. Il faut savoir que nous avons des partenaires qui sont présents, sans oublier Côte Sud FM, mais nous avons les Bascos. Hein. C'est quand même vraiment une antenne LGBTQIA+, qui, sur le Pays Basque, a vraiment sa part. La CIMAD, qui est empreinte de l'humanité qui passe aussi par l'autre. Nous avons la Ligue des droits de l'homme, nous avons UFAL qui erre sur la côte sud et sur l'Adour. Donc vraiment, beaucoup de partenaires pour ce festival, il faut en parler. Il y a Amnesty International, et évidemment, toujours et encore, des associations incontournables comme le Planning Familial et Arcoland. Donc merci pour tout ça, merci de participer à ce que le fait que des festivals comme ça existent. Et j'ai vraiment plaisir d'en parler sur les ondes de Côte Sud FM.
Et toutes ces informations-là, vous pourrez également les retrouver sur le site côtesudfm.fr. Merci beaucoup Marina pour ce marathon qui en fait n'était pas si fatigant que ça.
Non mais on a une énergie de folle à Côte Sud FM.
On a avalé un marathon comme ça en une heure. Je crois qu'on a même calé le record du monde. Je ne sais pas combien.
Un décathlon en une heure, on serait hyper fort. Mais non, il faut une vie hein, pour faire le décathlon des degrés de l'amour. Hein. Il faut...
Oui,
et,
je pense.
Et on va peut-être pas tous les vivre dans une vie.
Et peut-être qu'on y reviendra d'ailleurs.
Et voilà, donc effectivement, parfois, l'idée aussi d'en parler ce soir, c'est qu'on se retrouve avec des fois, on reste bloqué dans un amour. Et comment on va avoir besoin de travailler sur soi, comprendre aussi comment fonctionne l'autre et soi-même, pour essayer de basculer dans un autre amour, pour essayer un autre degré. Voilà l'intérêt d'en avoir parlé aujourd'hui sur les ondes.
Rendez-vous le mois prochain pour un nouveau alibi de la libido. En attendant, restez à l'écoute de Côte Sud FM. Prenez soin de vous et surtout des autres. Bye bye tout le monde.
Au plaisir de vous revoir.
L'alibi de la libido. Votre rendez-vous sexothérapie animé par Marina pour désacraliser la sexualité et l'envisager avec humour, tous les 15 jours, le mercredi de 18 à 19h, sur Côte Sud FM 90.3.
À Tiroche, j'écoute Côte Sud FM 90.3.
My man was fighting someone holy war. I would be behind him, shook off beside him with strength he didn't know. It's you I'm fighting for.
Sud FM.